Chapitre 21. Tant de fatigue, tant de douleur avaient presque épuisé ma sensibilité. Je pleurais à peine ma mère. Je m'enfermais dans sa chambre après qu'on eût emporté son corps, et j'y restais morne et accablé pendant plusieurs mois, occupé seulement à retourner le passé sous toutes ses faces, et ne songeant pas à me demander ce que je ferais de l'avenir. Ma tante, qui d'abord m'avait fort mal accueilli, fut touchée de cette douleur muette que son caractère comprenait mieux que l'expansion des larmes. Elle me donna des soins en silence et veilla à ce que je ne me laissasse pas mourir de faim. La tristesse de cette maison que j'avais vue si fraîche et si brillante convenait à la situation de mon âme. Je revoyais les meubles qui me rappelaient les mille petits événements frivoles de mon enfance. Je comparais ce temps où une égratignure à mon doigt était l'accident le plus terrible qui pût bouleverser ma famille à la vie infâme et sanglante que j'avais menée depuis. Je voyais d'une part ma mère au bal, de l'autre la princesse Agarollo empoisonnée dans mes bras et peut-être de ma propre main. Le son des violons passait dans mes rêves au milieu des cris d'Henriette assassinée, et dans l'obscurité de la prison où pendant 3 mois d'angoisse j'avais attendu chaque jour une sentence de mort, je voyais arriver à moi, au milieu de l'éclat des bougies et du parfum des fleurs, mon fantôme vêtu d'un crêpe d'argent et couvert de pierreries. Quelquefois, fatigué de ces rêves confus et effrayants, je soulevais les rideaux, je m'approchais de la fenêtre et je regardais cette ville où j'avais été si heureuse et si vantée, les arbres de cette promenade où tant d'admiration avaient suivi chacun de mes pas. Mais bientôt je m'apercevais de l'insultante curiosité qu'excitait ma figure pâle. On s'arrêtait sous ma fenêtre, on se groupait pour parler de moi en me montrant presque du doigt. Alors je me retirais, je faisais retomber les rideaux, j'allais m'asseoir auprès du lit de ma mère et j'y restais jusqu'à ce que ma tante vînt, avec sa ligure et ses pas silencieux, me prendre le bras et me conduire à table. Ses manières en cette circonstance de ma vie me parurent les plus convenables et les plus généreuses qu'on pût avoir envers moi. Je n'aurais pas écouté les consolations, je n'aurais pu supporter les reproches, je n'aurais pas cru à des marques d'estime. L'affection muette et la pitié délicate me furent plus sensibles. Cette figure morne qui passait sans bruit autour de moi comme un fantôme, comme un souvenir du temps passé, était la seule qui ne put ni me troubler ni m'effrayer. Quelquefois, je prenais ses mains sèches et je les pressais sur ma bouche pendant quelques minutes, sans dire un mot, sans laisser échapper une parole ni un soupir. Elle ne répondait jamais à cette caresse, mais elle restait là, sans impatience, et ne retirait pas ses mains à mes baisers. C'était beaucoup. Je ne pensais plus à Léonie que comme à un souvenir terrible que j'éloignais de toutes mes forces. Retourner vers lui était une pensée qui me faisait frémir comme eût fait la vue d'un supplice. Je n'avais plus assez de vigueur pour l'aimer ou le haïr. Il ne m'écrivait pas et je ne m'en apercevais pas tant j'avais peu compté sur ses lettres. Un jour, il en arriva une qui m'apprit de nouvelles calamités. On avait trouvé un testament de la princesse Algarollo dont la date était plus récente que celle d'une autre. Un de ses serviteurs en qui elle avait confiance en avait été le dépositaire depuis sa mort jusqu'à ce jour. Elle avait fait ce testament à l'époque où Léonie l'avait délaissée pour me soigner et où elle avait eu des doutes sur notre fraternité. Depuis, elle avait songé à le déchirer en se réconciliant avec nous. Mais comme elle était sujette à mille caprices, elle avait gardé près d'elle les deux testaments, afin d'être toujours prête à en laisser subsister un. Léonie savait dans quel meuble était déposé le sien. Mais l'autre était connu seulement de Vincenzo, l'homme de confiance de la princesse, et il devait, à un signe d'elle, le brûler ou le conserver. Elle ne s'attendait pas, l'infortunée, à une mort si violente et si soudaine. Vincenzo, que Léonie avait comblé de ses générosités et qui lui était tout dévoué à cette époque, n'ayant d'ailleurs pas pu savoir les dernières intentions de la princesse, conserva le testament sans rien dire et nous laissa produire le nôtre. Il eut pu s'enrichir par ce moyen en nous menaçant ou en vendant son secret aux héritiers naturels. Mais ce n'était pas un malhonnête homme ni un méchant cœur. Il nous laissa jouir de la succession sans exiger de meilleur traitement que ce qu'il recevait. Mais quand j'eus quitté Léonie, il devint mécontent. Car Léonie était brutale avec ses gens, et je les enchaînais seuls à son service par mon indulgence. Un jour, Léonie s'oublia jusqu'à frapper ce vieillard, qui aussitôt tira le testament de sa poche et lui déclara qu'il allait le porter chez les cousins de la princesse. Aucune menace, aucune prière, aucune offre d'argent ne put apaiser son ressentiment. Le marquis arriva et résolut d'employer la force pour lui arracher le fatal papier. Mais Vincenzo, qui, malgré son âge, était un homme remarquablement vigoureux, le renversa, le frappa, menaça Léonie de le jeter par la fenêtre s'il s'attaquait à lui et courut produire les pièces de sa vengeance. Et Léonie fut aussitôt dépossédée, condamnée à représenter tout ce qu'il avait mangé de la succession, c'est-à-dire les trois quarts, et incapable de s'acquitter, il essaya vainement de fuir. Il fut mis en prison et c'est de là qu'il m'écrivait, non pas tous les détails que je viens de vous dire et que j'ai su depuis, mais en peu de mots l'horreur de sa situation. Si je ne venais à son secours, il pourrait languir toute sa vie dans la captivité la plus affreuse, car il n'avait plus le moyen de se procurer le bien-être dont nous avions pu nous entourer lors de notre première réclusion. Ses amis l'abandonnaient et se réjouissaient peut-être d'être débarrassé de lui. Il était absolument sans ressources, dans un cachot humide où la lèpre le dévorait déjà. On avait vendu ses bijoux et jusqu'à ses hardes. Il avait à peine de quoi se préserver du froid. Je partis aussitôt, comme je n'avais jamais eu l'intention de me fixer à Bruxelles, et que la paresse de la douleur m'y avait seul enchaîné depuis une demi-année. J'avais converti à peu près tout mon héritage en argent don comptant. J'avais formé souvent le projet de l'employé à fonder un hôpital pour les filles repenties et à m'y faire religieuse. D'autres fois, j'avais songé à placer cet argent sur la Banque de France, et à en faire pour Léonie une rente inaliénable qui le préserva à jamais du besoin et des bassesses. Je n'aurais gardé pour moi qu'une petite pension viagère, et j'aurais été m'ensevelir seul dans la vallée suisse, où le souvenir de mon bonheur m'aurait aidé à supporter l'horreur de la solitude. Lorsque j'appris le nouveau malheur où Léonie était tombée, je sentis mon amour et ma sollicitude pour lui se réveiller plus vif que jamais. Je fis passer toute ma fortune à un banquier de Milan. Je ne réservais qu'un capital suffisant pour doubler la pension que mon père avait léguée à ma tante. Ce capital fut à sa grande satisfaction la maison que nous habitions et où elle avait passé la moitié de sa vie. Je lui en abandonnai la possession, et je partis pour rejoindre Léonie. Elle ne me demanda pas où j'allais, elle le savait trop bien. Elle n'essaya point de me retenir, elle ne me remercia point, elle me pressa la main. Mais en me retournant, je vis couler lentement sur sa joue ridée la première larme que je lui eusse jamais vue répandre. Chapitre 22. Je trouvai Léonie dans un état horrible, âme livide et presque fou. C'était la première fois que la misère et la souffrance l'avaient étreint réellement. Jusque-là, il n'avait fait que voir crouler son opulence peu à peu, tout en cherchant et en trouvant les moyens de la rétablir. Ses désastres en ce genre avaient été grands. L'industrie et le hasard ne l'avaient jamais laissé longtemps aux prises avec les privations de l'indigence. Sa force morale s'était toujours maintenue, mais elle fut vaincue quand la force physique l'abandonna. Je le trouvais dans un état d'excitation nerveuse qui ressemblait à de la fureur. Je me portais caution de sa dette. Il me fut aisé de fournir les preuves de ma solvabilité, je les avais sur moi. Je n'entrai donc dans sa prison que pour l'en faire sortir. Sa joie fut si violente qu'il ne put la soutenir et qu'il fallut le transporter évanoui dans la voiture. Je l'emmenai à Florence et l'entourai de tout le bien-être que je pus lui procurer. Toutes ses dettes payées, il me restait fort peu de choses. Je mis tous mes soins à lui faire oublier les souffrances de sa prison. Son corps robuste fut vite rétabli, mais son esprit resta malade. Les terreurs de l'obscurité et les angoisses du désespoir avaient fait une profonde impression sur cet homme actif, entreprenant, habitué aux jouissances de la richesse et aux agitations de la vie aventureuse. L'inaction l'avait brisé. Il était devenu sujet à des frayeurs puériles, à des violences terribles. Il ne pouvait plus supporter aucune contrariété. Et ce qu'il y eut de plus affreux, c'est qu'il s'en prenait à moi de toutes celles que je ne pouvais lui éviter. Il avait perdu cette puissance de volonté qui lui faisait envisager sans crainte l'avenir le plus précaire. Il s'effrayait maintenant de la pauvreté et me demandait chaque jour quelles ressources j'aurais quand celles que j'avais encore seraient épuisées. Je ne savais que répondre. J'étais épouvanté moi-même de notre prochain dénuement. Et ce moment arriva. Je me mis à peindre à l'aquarelle des écrans, des tabatières et divers autres petits meubles en bois de spa. Quand j'avais travaillé 12 heures par jour, j'avais gagné 8 ou 10 francs. Bon, c'eût été assez pour mes besoins, mais pour Léonie, c'était la misère la plus profonde. Il avait envie de 100 choses impossibles. Il se plaignait avec amertume, avec fureur, de n'être plus riche. Il me reprochait souvent d'avoir payé ses dettes et ne pas m'être sauvé avec lui en emportant mon argent. J'étais forcé, pour l'apaiser, de lui prouver qu'il m'eût été impossible de le tirer de prison en commettant cette friponnerie. Il se mettait à la fenêtre et maudissait avec d'horribles jurements les gens riches qui passaient dans leurs équipages. Il me montrait ses vêtements usés et me disait avec un accent impossible à rendre « Mais tu ne peux donc pas m'en faire faire d'autres ?» Tu ne veux donc pas ? » Il finit par me répéter si souvent que je pouvais le tirer de cette détresse et que j'avais l'égoïsme et la cruauté de l'y laisser, que je le crus fou et que je n'essayais plus de lui faire entendre raison. Je gardais le silence chaque fois qu'il y revenait et je lui cachais mes larmes qui ne servaient qu'à l'irriter. Il pensa que je comprenais ses abominables suggestions et traita mon silence d'indifférence féroce et d'obstination imbécile. Plusieurs fois, il me frappa violemment et m'eût tué si on ne fût venu à mon secours. Il est vrai que, quand ses accès étaient passés, il se jetait à mes pieds et me demandait pardon avec des larmes. Mais j'évitais autant que possible ces scènes de réconciliation, car l'attendrissement causait une nouvelle secousse à ses nerfs et provoquait le retour de la crise. Cette irritabilité cessa enfin et fit place à une sorte de désespoir morne et stupide, plus affreuse encore. Il me regardait d'un air sombre et semblait nourrir contre moi une haine cachée et des projets de vengeance. Quelquefois, en m'éveillant au milieu de la nuit, je le voyais debout auprès de mon lit avec sa figure sinistre. Je croyais qu'il voulait me tuer et je poussais des cris de terreur. Mais il haussait les épaules et retournait à son lit avec un rire hébété. Mais malgré tout cela, je l'aimais encore. Non plus tel qu'il était, mais à cause de ce qu'il avait été et de ce qu'il pouvait redevenir. Il y avait des moments où j'espérais qu'une heureuse révolution s'opérerait en lui et qu'il sortirait de cette crise, renouvelé et corrigé de tous ses mauvais penchants. Il semblait ne plus songer à les satisfaire et n'exprimait plus ni regret ni désir de quoi que ce fût. Je n'imaginais pas le sujet des longues méditations où il semblait plonger. La plupart du temps, ses yeux étaient fixés sur moi, avec une expression si étrange que j'avais peur de lui. Je n'osais lui parler, mais je lui demandais grâce par des regards suppliants. Alors, il me semblait voir les siens s'humecter et un sourire, un soupir imperceptible soulever sa poitrine. Puis il détournait la tête comme s'il eût voulu cacher ou étouffer son émotion, et il retombait dans sa rêverie. Je me flattais alors qu'il faisait des réflexions salutaires et que bientôt il m'ouvrirait son cœur pour me dire qu'il avait conçu la haine du vice et l'amour de la vertu. Mes espérances s'affaiblirent lorsque je vis le marquis de reparaître autour de nous. Il n'entrait jamais dans mon appartement parce qu'il savait l'horreur que j'avais de lui, mais il passait sous les fenêtres et appelait Léonie, ou venait jusqu'à ma porte et frappait d'une certaine manière pour l'avertir. Alors Léonie sortait avec lui et restait longtemps dehors. Un jour, je les vis passer et repasser plusieurs fois. Le vicomte de Chalin était avec eux. Léonie est perdue, pensais-je, et moi aussi. Il va se commettre sous mes yeux quelque nouveau crime. Le soir, Léonie rentra tard, et comme il quittait ses compagnons à la porte de la rue, je l'entendis prononcer ces paroles. Mais vous lui direz bien que je suis fou, absolument fou, que sans cela je n'aurais jamais consenti. Elle doit bien savoir que la misère m'a rendu fou. » Je n'osais point lui demander d'explication et je lui servis son modeste repas. Il n'y toucha pas et se mit à attiser le feu convulsivement. Puis il me demanda de l'éther et après en avoir pris une très forte dose, il se coucha et parut dormir. Je travaillais tous les soirs aussi longtemps que je le pouvais sans être vaincu par le sommeil et la fatigue. Et ce soir-là, je me sentis si las que je m'endormis dès minuit. À peine étais-je couché que j'entendis un léger bruit, et il me sembla que Léonie s'habillait pour sortir. Je l'appelai et lui demandai ce qu'il faisait. « Rien, dit-il, je veux me lever et t'aller trouver, mais je crains ta lumière, tu sais que cela m'attaque les nerfs et me cause des douleurs affreuses à la tête, éteins-la. » J'obéis. « Est-ce fait ?» me dit-il. « Bon, ben maintenant, recouche-toi, j'ai besoin de t'embrasser, attends-moi. » Cette marque d'affection, qui ne m'avait pas donné depuis plusieurs semaines, fit tressaillir mon pauvre cœur de joie et d'espérance. Je me flattais que le réveil de sa tendresse allait amener celui de sa raison et de sa conscience. Je m'assis sur le bord de mon lit et je l'attendis avec transport. Il vint se jeter dans mes bras ouverts pour le recevoir, et m'étreignant avec passion, il me renversa sur mon lit. Mais au même instant, un sentiment de méfiance, qui me fut envoyé par la protection du ciel ou par la délicatesse de mon instinct, me fit passer la main sur le visage de celui qui m'embrassait. Léonie avait laissé croître sa barbe et ses moustaches depuis qu'il était malade. Et je trouvais un visage lisse et uni. Je fis un cri et le repoussai violemment. « Qu'as-tu donc ?» me dit la voix de Léonie. « Mais est-ce que tu as coupé ta barbe ?» lui dis-je. « Tu le vois bien ?» me répondit-il. Mais alors, je m'aperçus que la voix parlait à mon oreille en même temps qu'une autre bouche se collait à la mienne. Je me dégageai avec la force que donne la colère et le désespoir, et m'enfuyant au bout de la chambre, je relevai précipitamment la lampe que j'avais couverte et non éteinte. Je vis Lord Edwards assis sur le bord du lit, stupide et déconcerté, oh, je crois qu'il était ivre, et Léonie qui venait à moi d'un air égaré. « Misérable !» m'écriai-je. « Juliette !» me dit-il avec des yeux hagards et une voix étouffée, « cédez si vous m'aimez. Il s'agit pour moi de sortir de la misère, vous voyez que je me consume. » Il s'agit de ma vie et de ma raison, vous le savez bien. Mon salut sera le prix de votre dévouement. Et quant à vous, vous serez désormais riche et heureuse avec un homme qui vous aime depuis longtemps et à qui rien ne coûte pour vous obtenir. Consens-y, Juliette, ajouta-t-il à voix basse, ou je te poignarde quand il sera hors de la chambre. La frayeur monta le jugement. Je m'élançai par la fenêtre au risque de me tuer. Des soldats qui passaient me relevèrent. On me rapporta évanoui dans la maison. Quand je revins à moi, Léonie et ses complices l'avaient quitté. Ils avaient déclaré que je m'étais précipité par la fenêtre dans un accès de fièvre cérébrale, tandis qu'ils étaient allés dans une autre chambre pour me chercher de secours. Ils avaient feint beaucoup de consternation. Léonie était restée jusqu'à ce que le chirurgien qui me soigna eût déclaré que je n'avais aucune fracture. Alors Léonie était sortie en disant qu'il allait rentrer, et depuis 2 jours il n'avait pas reparu. Il ne revint pas, et je ne le revis jamais. Ici, Juliette termina son récit et resta accablée de fatigue et de tristesse. « C'est alors, ma pauvre enfant, lui dis-je, que je fis connaissance avec toi. Je demeurai dans la même maison. Le récit de ta chute m'inspira de la curiosité. Bientôt, j'appris que tu étais jeune et digne d'un intérêt sérieux, que Léonie, après t'avoir accablé des plus mauvais traitements, t'avait enfin abandonné mourante et dans la misère. Je voulus te voir, tu étais dans le délire quand j'approchais de ton lit. Oh, que tu étais belle, Juliette, avec tes épaules nues, tes cheveux épars, tes lèvres brûlées du feu de la fièvre, et ton visage animé par l'énergie de la souffrance. Que tu me semblas belle encore, lorsque, abattue par la fatigue, tu retombas sur ton oreiller, pâle et penché comme une rose blanche qui s'effeuille à la chaleur du jour. Je ne pus m'arracher auprès de toi. Je me sentis saisi d'une sympathie irrésistible, entraîné par un intérêt que je n'avais jamais éprouvé. Je fis venir les premiers médecins de la ville. Je te procurai tous les secours qui te manquaient. Pauvre fille abandonnée, je passai les nuits près de toi, je vis ton désespoir, je compris ton amour. Je n'avais jamais aimé, aucune femme ne me semblait pouvoir répondre à la passion que je me sentais capable de ressentir. Je cherchais un cœur aussi fervent que le mien. Je me méfiais de tout ce que j'éprouvais. Et bientôt je reconnaissais la prudence de ma retenue en voyant la sécheresse et la frivolité de ces cœurs féminins. Le tien me sembla le seul qui pût me comprendre. Une femme capable d'aimer et de souffrir, comme tu avais fait, était la réalisation de tous mes rêves. Je désirais, sans l'espérer beaucoup, obtenir ton affection. Ce qui me donna la présomption d'essayer de te consoler, ce fut la certitude que je sentis en moi de t'aimer sincèrement et généreusement. Tout ce que tu disais dans ton délire te faisait connaître à moi autant que l'a fait depuis notre intimité. Je connus que tu étais une femme sublime aux prières que tu adressais à Dieu à voix haute, avec un accent dont rien ne pouvait rendre la sainteté déchirante. Tu demandais pardon pour Léonie, toujours pardon, jamais vengeance. Tu invoquais les âmes de tes parents. Tu leur racontais d'une voix haletante par quel malheur tu avais expié ta fuite et leur douleur. Quelquefois, tu me prenais pour Léonie et tu m'adressais des reproches foudroyants. D'autres fois, tu te croyais avec lui en Suisse et tu me pressais dans tes bras avec passion. Il m'eût été bien facile alors d'abuser de ton erreur et l'amour qui s'allumait dans mon sein me faisait de tes caresses insensées un véritable supplice. Mais je serais mort plutôt que de succomber à mes désirs. Et la fourberie de Lord Edwards, dont tu me parlais sans cesse, me semblait la plus déshonorante infamie qu'un homme pût commettre. Enfin, j'ai eu le bonheur de sauver ta vie et ta raison, ma pauvre Juliette. Depuis ce temps, j'ai bien souffert et j'étais bien heureux par toi. Je suis un fou peut-être de ne pas me contenter de l'amitié et de la possession d'une femme telle que toi. Mais mon amour est insatiable. Oh, je voudrais être aimé comme le fut Léonie, et je te tourmente de cette folle ambition. Oh, je n'ai pas son éloquence et ses séductions. Mais je t'aime, moi. Je ne t'ai pas trompé. Je ne te tromperai jamais. Ton cœur, longtemps fatigué, devrait s'être reposé afin de dormir sur le mien. Juliette, Juliette, quand m'aimeras-tu comme tu sais aimer? Mais à présent et toujours, me répondit-elle. Tu m'as sauvée, tu m'as guérie et tu m'aimes. J'étais une folle, je le vois bien, d'aimer un pareil homme. Tout ce que je viens de te raconter m'a remis sous les yeux des infamies que j'avais presque oubliées. Maintenant, je ne sens plus que de l'horreur pour le passé, et je ne veux plus y revenir. Tu as bien fait de me laisser dire tout cela. Je suis calme, et je sens bien que je ne peux plus aimer son souvenir. Tu es mon ami, toi. Tu es mon sauveur, mon frère et mon amant. Oh, dis aussi ton mari, je t'en supplie, Juliette. Mon mari, si tu veux, dit-elle en m'embrassant avec une tendresse qu'elle ne m'avait jamais témoignée aussi vivement, et qui m'arracha des larmes de joie et de reconnaissance. Chapitre 23. Je me réveillais si heureux le lendemain que je ne pensais plus à quitter Venise. Le temps était magnifique, le soleil était doux comme au printemps. Des femmes élégantes couvraient les quais et s'amusaient aux lazzi des masques qui, à demi couchés sur les rampes des ponts, agaçaient les passants et adressaient tour à tour des impertinences et des flatteries aux femmes laides et jolies. C'était le mardi gras, triste anniversaire pour Juliette. Je désirais la distraire. Je lui proposais de sortir et elle y consentit. Je la regardais avec orgueil marcher à mes côtés. On donne peu le bras aux femmes à Venise, on les soutient seulement par le coude en montant et en descendant les escaliers de marbre blanc qui à chaque pas se présentent pour traverser les canaux. Juliette avait tant de grâce et de souplesse dans tous ses mouvements que j'avais une joie puérile à la sentir à peine s'appuyer sur ma main pour franchir ses ponts. Tous les regards se fixaient sur elle, et les femmes, qui jamais ne regardent avec plaisir la beauté d'une autre femme, regardaient au moins avec intérêt l'élégance de ses vêtements et de sa démarche qu'elles eussent voulu imiter. Oh, je crois encore voir la toilette et le maintien de Juliette. Elle avait une robe de velours violet avec un boa et un petit manchon d'hermine. Son chapeau de satin blanc encadrait son visage toujours pâle, mais si parfaitement beau que malgré 7 ou 8 années de fatigue et de chagrin mortel, tout le monde lui donnait 18 ans tout au plus. Elle était chaussée de bas de soie violet, si transparent qu'on voyait au travers sa peau blanche et mate comme de l'albâtre. Quand elle avait passé et qu'on ne voyait plus sa figure, on suivait de l'œil ses petits pieds, si rares en Italie. J'étais heureux de la voir admirer ainsi. Je le lui disais et elle me souriait avec une douceur affectueuse. J'étais heureux. Un bateau pavoisé et plein de masques et de musiciens s'avança sur le canal de la Giudecca. Je proposai à Juliette de prendre une gondole et d'en approcher pour voir les costumes. Elle y consentit. Plusieurs sociétés suivirent notre exemple, et bientôt nous nous trouvâmes engagés dans un groupe de gondoles et de barques qui accompagnaient avec nous le bateau pavoisé et semblaient lui servir d'escorte. Nous entendîmes dire au gondolier que cette troupe de masques était composée des jeunes gens les plus riches et les plus à la mode dans Venise. Ils étaient en effet d'une élégance extrême. Leurs costumes étaient fort riches et le bateau était orné de voiles de soie, de banderoles de gaze d'argent et de tapis d'Orient de la plus grande beauté. Leurs vêtements étaient ceux des anciens Vénitiens que Paul Véronèse, par un heureux anachronisme, a reproduit dans plusieurs sujets de dévotion entre autres dans le magnifique tableau des noces dont la République de Venise fut présente à Louis XIV et qui est au musée de Paris. Sur le bord du bateau, je remarquais surtout un homme vêtu d'une longue robe de soie vert pâle, brodée de longues arabesques d'or et d'argent. Il était debout et jouait de la guitare dans une attitude si noble et sa haute taille était si bien prise qu'il semblait fait exprès pour porter ses habits magnifiques. Je le fis remarquer à Juliette, qui leva les yeux sur lui machinalement, le vit à peine et me répondit « Oui, 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 superbe !» en pensant à autre chose. Nous suivions toujours et, poussés par les autres barques, nous touchions le bateau pavoisé du côté précisément où se tenait cet homme. Juliette était aussi debout avec moi et s'appuyait sur le couvert de la gondole pour ne pas être renversé par les secousses que nous recevions souvent. Tout à coup, cet homme se pencha vers Juliette, comme pour la reconnaître, passa la guitare à son voisin, arracha son masque noir et se tourna de nouveau vers nous. Je vis sa figure, qui était belle et noble s'il en fut jamais. Juliette ne le vit pas. Alors il l'appela à demi-voix, et elle tressaillit comme si elle eût été frappée d'une commotion galvanique. « Juliette !» répéta-t-il d'une voix plus forte. « Léonie !» s'écria-t-elle avec transport. Oh, c'est encore pour moi comme un rêve. J'eus un éblouissement. Je perdis la vue pendant une seconde, je crois. Juliette s'élança, impétueuse et forte. Tout à coup, je la vis transportée comme par magie sur le bateau dans les bras de Léonie. Un baiser délirant unissait leurs lèvres. Le sang me monta au cerveau, me bourdonna dans les oreilles, me couvrit les yeux d'un voile plus épais. Je ne sais pas ce qui se passa. Je revins à moi en montant l'escalier de mon auberge. J'étais seul. Juliette était partie avec Léonie. Je tombai dans une rage inouïe. Et pendant 3 heures, je me comportais comme un épileptique. Je reçus, vers le soir, une lettre de Juliette conçue en ces termes. Pardonne-moi, Bustamante. Je t'aime, je te vénère, je te bénis à genoux pour ton amour et tes bienfaits. Ne me hais pas. Tu sais que je ne m'appartiens pas, qu'une main invisible dispose de moi et me jette malgré moi dans les bras de cet homme. Ô mon ami, pardonne-moi. Ne te venge pas. Je l'aime. Je ne puis pas vivre sans lui. Je ne puis savoir qu'il existe sans le désirer. Je ne puis le voir passer sans le suivre. Je suis sa femme, il est mon maître, vois-tu. Il est impossible que je me dérobe à sa passion et à son autorité. Tu as vu si j'ai pu résister à son appel. Il y a eu comme une force magnétique, comme un aimant, qui m'a soulevé et qui m'a jeté sur son cœur. Et pourtant j'étais près de toi, j'avais ma main dans la tienne. Pourquoi ne m'as-tu pas retenu? Tu n'en as pas eu la force. Ta main s'est ouverte, ta bouche n'a même pas pu me rappeler. Tu vois que cela ne dépend pas de nous. Il y a une volonté cachée et une puissance magique qui ordonne et opère ces choses étranges. Je ne puis briser la chaîne qui est entre moi et Léonie. C'est le boulet qui a coupé les galériens, mais c'est la main de Dieu qui l'a rivé. Oh, mon cher Léo, ne me maudis pas. Je suis à tes pieds. Je te supplie de me laisser être heureuse. Si tu savais comme il m'aime encore, comme il m'a reçue avec joie, quelle caresse, quelle parole, quelle larme. Je suis comme ivre, je crois rêver. Je dois oublier son crime envers moi. Il était fou. Après m'avoir abandonné, il est arrivé à Naples dans un tel état d'aliénation qu'il a été enfermé dans un hôpital de fous. Je ne sais par quel miracle il en est sorti guéri, ni par quelle protection du sort il se trouve maintenant remonté au fait de la richesse. Mais il est plus beau, plus brillant, plus passionné que jamais. Laisse-moi, laisse-moi l'aimer. Dussé-je être heureuse seulement un jour et mourir demain. Ne dois-tu pas me pardonner de l'aimer si follement, toi qui as pour moi une passion aveugle et aussi mal placée? Pardonne, je suis folle, je ne sais ni de quoi je te parle, ni ce que je te demande. Oh, ce n'est pas de me recueillir, de me pardonner, quand il m'aura de nouveau délaissé. Non, j'ai trop d'orgueil, ne crains rien. Je sens que je ne te mérite plus. Quand, me jetant dans ce bateau, je me suis à jamais séparé de toi, que je ne puis plus soutenir ton regard ni toucher ta main. Adieu donc à Léo. Oui, je t'écris pour te dire adieu, car je ne puis pas me séparer de toi sans te dire que mon cœur enseigne déjà et qu'il se brisera un jour de regret et de repentir. Va, tu seras vengé. Calme-toi maintenant, pardonne, plains-moi, prie pour moi. Sache bien que je ne suis pas une stupide ingrate qui méconnaît ton caractère et ses devoirs envers toi. Je ne suis qu'une malheureuse que la fatalité entraîne et qui ne peut s'arrêter. Je me retourne vers toi et je t'envoie mille adieux, mille baisers, mille bénédictions. Mais la tempête m'enveloppe et m'emporte. En périssant sur les écueils où elle doit me briser, je répéterai ton nom et je t'invoquerai comme un ange de pardon entre Dieu et moi, Juliette. Cette lettre me causa un nouvel accès de rage. Puis je tombai dans le désespoir. Je sanglotais comme un enfant pendant plusieurs heures, et succombant à la fatigue, je m'endormis sur ma chaise, seul, au milieu de cette grande chambre où Juliette m'avait conté son histoire la veille. Je me réveillai calme, j'allumai du feu, je fis plusieurs fois le tour de la chambre d'un pas lent, et mesuré. Quand le jour parut, je me rassis et je me rendormis. Ma résolution était prise, j'étais tranquille. À 9 heures, je sortis, je pris des informations dans toute la ville et je manquis de certains détails dont j'avais besoin. On ignorait par quel procédé Léonie avait fait sa fortune. On savait seulement qu'il était riche, prodigue, dissolu. Tous les hommes à la mode allaient chez lui, singeaient sa toilette et se faisaient ses compagnons de plaisir. Le marquis de l'escortait partout et partageait son opulence. Tous deux étaient amoureux d'une courtisane célèbre et par un caprice inouï, cette femme refusait leurs offres. Sa résistance avait tellement aiguillonné le désir de Léonie qu'il lui avait fait des promesses exorbitantes et qu'il n'y avait aucune folie où elle ne pût l'entraîner. J'allais chez elle et j'eus beaucoup de peine à la voir. Enfin, elle m'admit et me reçut d'un air hautain en me demandant ce que je voulais du ton d'une personne pressée de congédier un importun. « Je viens vous demander un service, lui dis-je. Vous haïssez Léonie. Oui, me répondit-elle, je le hais mortellement. Puis-je vous demander pourquoi ? Oh, il a séduit une jeune sœur que j'avais dans le Frioul et qui était honnête et sainte. Elle est morte à l'hôpital. Je voudrais manger le cœur de Léonie. Voulez-vous m'aider en attendant à lui faire subir une mystification cruelle ? Oh, oui. Voulez-vous lui écrire et lui donner un rendez-vous ? Oui, mais pourvu que je ne m'y trouve pas. Cela va sans dire. Voici le modèle du billet que vous écrirez. Je sais que tu as retrouvé ta femme et que tu l'aimes. Je ne voulais pas de toi hier, cela me semblait trop facile. Aujourd'hui, il me paraît piquant de te rendre infidèle. Je veux savoir d'ailleurs si le grand désir que tu as de me posséder est capable de tout comme tu t'en vantes. Je sais que tu donnes un concert sur l'eau cette nuit. Je serai dans une gondole et je te suivrai. Tu connais mon gondolier, Cristofano. Tiens-toi sur le bord de ton bateau et saute dans ma gondole au moment où tu l'apercevras. Je te garderai une heure, après quoi j'aurai assez de toi, peut-être pour toujours. Je ne veux pas de tes présents. Je ne veux que cette preuve de ton amour. À ce soir ou jamais. La Miss Anna trouva le billet singulier et le copia en riant. Puis que ferez-vous de lui quand vous l'aurez mis dans la gondole ? Ben, je le déposerai sur la rive du Lido et je le laisserai passer là une nuit un peu longue et un peu froide. Je vous embrasserai volontiers pour vous remercier, dit la courtisane. Mais j'ai un amant que je veux aimer toute la semaine. Adieu. Il faut, lui dis-je, que vous mettiez votre gondolier à mes ordres. Sans doute, dit-elle, il est intelligent, discret, robuste. Faites-en ce que vous voudrez. Chapitre 24 et dernier. Je rentrai chez moi. Je passai le reste du jour à réfléchir mûrement à ce que j'allais faire. Le soir vint. Cristofano et la gondole m'attendaient sous la fenêtre. Je pris un costume de gondolier. Le bateau de Léonie parut tout illuminé de verres de couleur qui brillaient comme des pierreries depuis le faîte des mâts jusqu'au bout des moindres cordages, et lançant des fusées de toutes parts dans les intervalles d'une musique éclatante. Je montai à l'arrière de la gondole, une rame à la main. Je l'atteignis. Léonie était sur le bord, dans le même costume que la veille. Juliette était assise au milieu des musiciens. Elle avait aussi un costume magnifique, mais elle était abattue et pensive, et semblait ne pas s'occuper de lui. Cristofano ôta son chapeau et leva sa lanterne à la hauteur de son visage. Léonie le reconnut et sauta dans la gondole. Aussitôt qu'il y fut entré, Cristofano lui dit que la Miss Anna l'attendait dans une autre gondole auprès du jardin public. « Et pourquoi n'est-elle pas ici ? » demanda-t-il. « Non, so, répondit le gondolier d'un air d'indifférence, et il se remit à ramer. Je le secondai vigoureusement, et en peu d'instants, nous eûmes dépassé le jardin public. Il y avait autour de nous une brume épaisse. Léonie se pencha plusieurs fois et demanda si nous n'étions pas bientôt arrivés. Nous glissions toujours rapidement sur la lagune tranquille. La lune pâle et baignée dans la vapeur blanchissait l'atmosphère sans l'éclairer. Nous passâmes en contrebandier la limite maritime qui ne se franchit point ordinairement sans une permission de la police et nous ne nous arrêtâmes que sur la rive sablonneuse du Lido assez loin pour ne pas risquer de rencontrer un être vivant. « Le coquin !» s'écria notre prisonnier. « Où diable m'avez-vous conduit ? Où sont les escaliers du jardin public ? Où est la gondole de la Missana ? Votre Dieu, nous sommes dans le sable ! Vous êtes perdu dans la brume, butor que vous êtes, et vous me débarquez au hasard. Non, monsieur, lui dis-je en italien, ayez la bonté de faire 10 pas avec moi, et vous trouverez la personne que vous cherchez. Il me suivit, et aussitôt Cristofano, conformément à mes ordres, s'éloigna avec la gondole et alla m'attendre dans la lagune sur l'autre rive de l'île. « T'arrêteras-tu, brigand ?» me cria Léonie quand nous eûmes marché sur la grève pendant quelques minutes. « Veux-tu me faire geler ici ? Où est ta maîtresse ? Où me mènes-tu ? « Seigneur, lui répondis-je en me retournant, et en tirant de dessous ma cape les objets que j'avais apportés, permettez-moi d'éclairer votre chemin. » Alors je tirai ma lanterne sourde, je l'ouvris et je l'accrochai à un des pieux du rivage. « Que diable fais-tu là ? Me dit-il. « Ai-je affaire à des fous ? De quoi s'agit-il ? » « Il s'agit, lui dis-je en tirant 2 épées de dessous mon manteau, de vous battre avec moi. « Avec toi, canaille, je vais te rosser comme tu le mérites. » « Un instant, lui dis-je, en le prenant au collet avec une vigueur dont il fut un peu étourdi. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis noble tout aussi bien que vous. De plus, je suis un honnête homme et vous êtes un scélérat. Je vous fais donc beaucoup d'honneur en me battant avec vous. » Il me sembla que mon adversaire tremblait et cherchait à s'échapper. Je le serrai davantage. « Mais que me voulez-vous, par le nom du diable ? » s'écria-t-il. « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Pourquoi m'avez-vous ici ? Votre intention est-elle de m'assassiner ? Oh, je n'ai aucun argent sur moi. Êtes-vous un voleur ? Non, 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 lui dis-je. Il n'y a de voleur et d'assassin ici que vous. Vous le savez bien. Êtes-vous donc mon ennemi ? Oh oui, oh oui, je suis votre ennemi. Comment vous nommez-vous ? Cela ne vous regarde pas. Vous le saurez si vous me tuez. Et si je ne veux pas vous tuer ? S'écria-t-il en haussant les épaules et en s'efforçant de prendre de l'assurance. Alors vous vous laisserez tuer par moi, lui répondis-je. Car je vous jure qu'un de nous deux doit rester ici cette nuit. « Vous êtes un bandit !» s'écria-t-il en faisant des efforts terribles pour se dégager. « Au secours ! Au secours ! Oh, cela est fort inutile, lui dis-je. Le bruit de la mer couvre votre voix et vous êtes loin de tout secours humain. Tenez-vous tranquille ou je vous étrangle. Ne vous mettez pas en colère. Profitez des chances de salut que je vous donne. Je vais vous tuer, non vous assassiner. » Vous connaissez ce raisonnement-là. Battez-vous avec moi, ne m'obligez pas à profiter de l'avantage de la force que j'ai sur vous, comme vous voyez. En parlant ainsi, je le secouais par les épaules et le faisais plier comme un jonc, bien qu'il fût plus grand que moi de toute la tête. Il comprit qu'il était à ma disposition et il essaya de me dissuader. « Mais monsieur, si vous n'êtes pas fou, me dit-il. Vous avez une raison pour vous battre avec moi, que vous ai-je fait ? Il ne me plaît pas de vous le dire, répondis-je. Et vous êtes un lâche de me demander la cause de ma vengeance, quand c'est vous qui devriez me demander raison. Et de quoi ? Reprit-il. Je vous ai jamais vu. Il ne fait pas assez clair pour que je puisse bien distinguer vos traits. « Mais je suis sûr que j'entends votre voix pour la première fois. »« Paleton, vous ne sentez pas le besoin de vous venger d'un homme qui s'est moqué de vous, qui vous a fait donner un rendez-vous pour vous mystifier et qui vous amène ici malgré vous pour vous provoquer? On m'avait dit que vous étiez brave. Faut-il vous frapper pour éveiller votre courage? Vous êtes un insolent, dit-il en se faisant violence. À la bonne heure, je vous demande raison de ce mot, et je vais vous donner raison sur l'heure de ce soufflet. Je lui frappai légèrement sur la joue. Il fit un hurlement de rage et de terreur. « Ne craignez rien, lui dis-je, en le tenant d'une main et en lui donnant de l'autre une épée. Défendez-vous. Je sais que vous êtes le premier tireur de l'Europe. Je suis loin d'être de votre force. Il est vrai que je suis calme et que vous avez peur. Cela rend la chance égale. » Et sans lui donner le temps de répondre, je l'attaquai vigoureusement. Le misérable jeta son épée et se mit à fuir. Je le poursuivis, je l'atteignis, je le secouai avec fureur. Je le menaçai de le tirer dans la mer et de le noyer s'il ne se défendait pas. Quand il vit qu'il lui était impossible de s'échapper, il prit l'épée et retrouva ce courage désespéré que donnent aux plus peureux l'amour de la vie et le danger inévitable. Mais, soit que la faible clarté de la lanterne ne lui permît pas de bien mesurer ses coups, soit que la peur qu'il venait d'avoir lui eût ôté toute présence d'esprit, je trouvais ce terrible duelliste d'une faiblesse désespérante. J'avais tellement envie de ne pas le massacrer que je le ménageais longtemps. Enfin, il se jeta sur mon épée en voulant faire une feinte et il s'enferra jusqu'à la garde. « Justice, justice !» dit-il en tombant. « Je meurs assassiné !»« Mais tu demandes justice et tu l'obtiens ?» lui répondis-je. Tu meurs de ma main comme Henriette est mort de la tienne. Il fit un rugissement sourd, mordit le sable et rendit l'âme. Je pris les deux épées et j'allai retrouver la gondole. Mais en traversant l'île, je fus saisi de mille émotions inconnues. Ma force faiblit tout à coup. Je m'assis sur une de ces tombes hébraïques qui sont à demi recouvertes par l'herbe et que ronge incessamment le vent âpre et salé de la mer. La lune commençait à sortir des brouillards et les pierres blanches de ce vaste cimetière se détachaient sur la verdure sombre du lido. Je pensais à ce que je venais de faire et ma vengeance, dont je m'étais promis tant de joie, m'apparut sous un triste aspect. J'avais comme des remords, et pourtant j'avais cru faire une action légitime et sainte en purgeant la terre et en délivrant Juliette de ce démon incarné. Mais je ne m'étais pas attendu à le trouver lâche. J'avais espéré rencontrer un ferrailleur audacieux, et en m'attaquant à lui, j'avais fait le sacrifice de ma vie. J'étais troublé et comme épouvanté d'avoir pris la sienne si facilement. Je ne trouvais pas ma haine satisfaite par la vengeance. Je la sentais éteinte par le mépris. Quand je l'ai vu si poltron, pensais-je, j'aurais dû l'épargner. J'aurais dû oublier mon ressentiment contre lui et mon amour pour la femme capable de me préférer un pareil homme. Des pensées confuses, des agitations douloureuses se pressèrent alors dans mon cerveau. Le froid, la nuit, la vue de ces tombeaux me calmaient par instants. Ils me plongeaient dans une stupeur rêveuse dont je sortais violemment et douloureusement en me rappelant tout à coup ma situation, le désespoir de Juliette qui allait éclater demain, et l'aspect de ce cadavre qui gisait sur le sable ensanglanté non loin de moi. Il n'est peut-être pas mort, pensais-je. J'eus une envie vague de m'en assurer. J'aurais presque désiré lui rendre la vie. Les premières heures du jour me surprirent dans cette irrésolution, et je songeai alors que la prudence devait m'éloigner de ce lieu. J'allais rejoindre Cristofano, que je trouvais profondément endormi dans sa gondole, et que j'eus beaucoup de peine à réveiller. La vue de ce tranquille sommeil me fit envie. Comme Macbeth, je venais de divorcer pour longtemps avec lui. Je revenais, lentement bercé par les eaux que colorait déjà en rose l'approche du soleil. Je passais tout auprès du bateau à vapeur qui voyage de Venise à Trieste. C'était l'heure de son départ. Les roues battaient déjà l'eau écumante et des étincelles rouges s'échappaient du tuyau avec des spirales d'une noire fumée. Plusieurs barques apportaient les passagers. Une gondole effleura la nôtre et s'accrocha au bâtiment. Un homme et une femme sortirent de cette gondole et grimpèrent légèrement l'escalier du paquebot. À peine étaient-ils sur le tillac que le bâtiment partit avec la rapidité de l'éclair. Le couple se pencha sur la rampe pour voir le sillage. Je reconnus Juliette et Léonie. Je crus faire un rêve. Je passai ma main sur mes yeux. J'appelai Cristofano. Est-ce bien là le baron Léoné de Léonie qui part pour Trieste avec une dame ? Lui demandai-je. Oui, monseigneur, répondit-il. Je prononçai un blasphème épouvantable. Puis rappelant le gondolier, mais quel est donc, lui dis-je, l'homme que nous avons emmené hier soir au Lido ? Ben, votre Excellence le sait bien, répondit-il. C'est le marquis Lorenzo de... Fin de Léoné Léonie.